Un micro dans la ville sur Marmite FM 88.4.
Monico, animatrice et conteuse sur Marmite FM, organisait une petite fête qui mettait à l'honneur l'association Vivre Debout, une association qui lutte en faveur des handicapés. Alors avant de laisser la parole à Catherine Papouin qui va nous présenter Vivre Debout ainsi que son parcours personnel, Monico a souhaité, chers auditeurs, vous adresser quelques mots.
Bonjour, c'est Monico. Je ne suis pas sous mon arbre à palabre aujourd'hui. Je suis dans mon jardin. Par moment il pleut, par moment il pleut pas. Aujourd'hui nous sommes le 8 juin. La fête du conte est le 11 juin. Et là, dans le cadre de Pirouette, j'ai rassemblé mes amis de Vivre Debout qui sont là, ainsi que mes amis Bruno, musicien, Catherine, poète, Adama, conteuse, Marie-Jo, conteuse et poète. Nous allons passer un bon moment de convivialité. Eh ben, à la suite du déroulement qui se fera à la Bonne Franquette.
Alors Catherine Papouin, vous êtes trésorière de l'association Vivre Debout. Monico tenait beaucoup à ce que vous soyez là aujourd'hui et c'est du coup l'occasion aussi de parler de votre association. Alors déjà, bonjour Catherine.
Bonjour Julia.
Pour commencer, c'est quoi concrètement Vivre Debout, donc votre association?
L'association Vivre Debout est une association qui a été créée par 7 jeunes myopathes qui avaient à cette époque, en 1974, entre 18 et 20 ans, qui vivaient dans un établissement parisien qui s'appelait Saint-Jean, un établissement religieux. Dans cet établissement, ils étaient rangés par étage et par maladie, si bien qu'ils étaient tous myopathes, une rangée de myopathes, une rangée d'IMC. C'était en 68. En 68, ils se sont dit, il faut qu'on sorte de cet établissement, il faut qu'on sorte de l'institution pour vivre notre vie au plus près de la normale. De 68 à 74, ce n'est pas un projet qui se fait facilement. Parce que, en fait, dans les établissements en France, et c'est encore le cas aujourd'hui, on n'apprend pas aux enfants handicapés à devenir autonomes et avoir une vie indépendante. Donc, eux, ils ne savaient pas le prix du pain. Ils ne savaient pas qu'il fallait déclarer ses impôts. On ne leur avait pas appris tout ce quotidien.
Ils étaient complètement marginalisés, en fait.
Ils étaient dans l'institution, en marge de la société. En fait, ils étaient dans un cocon, doré, parce que dans cet établissement, il y avait une école intégrée. Donc déjà, ne serait-ce que pour aller à l'école, ils n'avaient pas besoin de sortir de Saint-Jean, parce que l'école était intégrée. Mais c'est une école ségrégative, en fait. Parce que quand on garde des enfants en dehors de la vraie vie, eh bien, ils sont des êtres à part. L'intégration des personnes handicapées, je le dis toujours, commence par une intégration à la crèche. Et je ne parle même pas du CP, je parle bien de la crèche. Parce que vivre ensemble, ça s'apprend. C'est quelque chose qu'il faut inculquer aux jeunes.
Pour les uns,
alors,
et pour les autres.
Aussi bien pour les enfants atteints de handicap et de déficience que pour les enfants valides. L'autonomie, ça s'apprend. La confiance en soi aussi. Et donc, quand ils ont atteint 18 ou 20 ans, où ils ne pouvaient déjà plus rester dans cet établissement. Parce que 20 ans en France, c'est une limite d'âge pour changer du statut d'enfant à adulte. Et eux, ils étaient dans cette situation-là. Ils ont pris leurs choses en main. La ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines se sortait de terre à l'époque. Donc, ils ont pris 3 appartements au 7 mars, dans la commune d'Elancourt. C'était une première expérience où ils avaient chacun leur chambre, ils vivaient en communauté. Et puis quand on apprend à vivre autonome et libre, plus on expérimente cette vie différente, plus on veut de liberté.
Alors avant de parler des activités qui sont proposées par l'association Vivre Debout, vous Catherine, à titre personnel, comment vous avez rencontré l'association? Comment vous avez découvert l'association?
En 77-78, moi j'étais intégrée à l'université de Rouen et puis j'ai eu une rupture amoureuse. Il fallait en fait que je quitte la Normandie, que je casse quelque chose dans ma vie pour mieux redémarrer. Donc je me suis inscrite, à l'époque j'étais étudiante en histoire-géographie pour devenir prof. Donc j'ai quitté Rouen pour m'inscrire à la Sorbonne. Et c'est là que j'ai rencontré Fabrice, qui est un des fondateurs de Vivre Debout. Je l'ai connu fortuitement lors de vacances. Et puis il m'a expliqué ce qu'ils étaient en train de vivre, ce qu'ils étaient en train de créer, ce qui est un véritable mouvement, un raz-de-marée hein, dans le médico-social. parce qu'il fallait faire comprendre aux gens en fait qu'ils étaient dans la capacité de vivre autonome au cœur de l'immeuble, au cœur de l'immeuble HLM, au cœur du quartier, au cœur de la ville, qu'ils étaient des citoyens comme les autres. Et je peux vous assurer que c'était une vraie lutte. Nous étions en autogestion. Donc il n'y avait pas de directeur, en fait on se répartissait les tâches. Moi j'étais responsable de la compta, une autre personne était responsable des ressources humaines, chef du personnel, si on va avec des guillemets. Entre 1974 et maintenant, il y a eu un bon bout de chemin de fait. Donc je ne faisais plus partie de Vivre Debout à une période. Puis moi, j'ai eu ma fille qui est là aujourd'hui. J'ai trouvé du travail, je suis devenue ingénieure informatique chez Apple. Et pendant plus de 25 ans, je ne me suis pas occupée de Vivre Debout. En fait, Vivre Debout volait de ses propres ailes. Et moi, je devais faire ma vie. C'était difficile de faire les deux en même temps et j'ai privilégié en fait ma vie tout en ayant toujours un œil sur mes camarades de jeu de Vivre Debout. Et puis Vivre Debout a fêté ses 40 ans d'existence avec une grande fête et là ils ont invité tous les gens qui avaient concouru à la réussite de Vivre Debout, les amis, les voisins, les commerçants, enfin tous les gens qui nous entourent. Que pour cette fête soit vraiment festive, en fait, notre présidente Jocelyne Bonsang a décidé de mettre en place des scénettes de théâtre pour que ces scénettes ne soient pas la fête du village, enfin, ou la kermesse de l'école. On a fait appel à deux professionnels reconnus sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui sont Jean Djemad, cofondateur de Black Blamber des Trappes.
Qui est une association de hip-hop, il me semble.
Voilà, c'est ça exactement, de danseurs. Et Étienne Guichard, qui est un metteur en scène reconnu. Ils sont venus bénévolement. Nous avons fait 5 répétitions à l'arrache. Et on a réussi, devant un public de 120 personnes, de raconter des histoires de vie, de ce que nous avons vécu. Et puis quand on est sorti de cette soirée, on s'est dit que le théâtre c'est trop bien, il faut qu'on continue.
Ça s'appelle Pris en compte, c'est un spectacle annuel.
Le projet s'appelle Pris en compte. Le spectacle s'appelle L'histoire de nos histoires.
Donc ça mélange danse et théâtre.
C'est un mélange de danse et théâtre. En fait, nous sommes accompagnés. Nous, c'est la troupe Pris en compte, en fait, qui est une troupe composée à la fois de personnes handicapées et de personnes valides. Mais le projet Pris en compte est à l'initiative des personnes handicapées elles-mêmes. Ce n'est pas du plaquage, du volonté, d'un éduxpé quelque part. Non, c'est nous qui avons tout monté le projet. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous avons été largement subventionnés par la Fondation de France au départ. Parce que des troupes de théâtre mixtes, ça existe, mais bien souvent, elles sont à l'initiative de personnes valides. Pris en compte, c'est l'initiative de personnes handicapées qui se sont pris en bas, qui se sont dit, nous aussi, on veut brûler les planches. Et pourquoi ? Pourquoi ? Quand on habite dans un quartier depuis des années, en fait, on est moins vu comme des personnes en fauteuil. On est vu comme Catherine. Vous savez, moi, une des plus belles victoires que j'ai eues dans ma vie, c'est quand on m'a dénommée la mère de Lucille. J'étais plus la fille en fauteuil ou la femme en fauteuil, j'étais la mère de Lucille. Et maintenant, je suis la grand-mère de Clément. Donc ça, c'est une victoire. Parce qu'en fait, je ne suis plus identifiée par ma qualité de handicapé, mais par une autre qualité. Soit mère, soit salariée. Mais enfin, l'handicap passe au deuxième plan. Et ce regard modifié, c'est ce que nous espérons faire passer comme message avec la troupe Pris en compte.
Justement, Catherine, c'est quoi votre ressenti par rapport à l'état actuel des choses, voilà, la vision qu'ont les gens du handicap en France ?
Par nature, je suis très positive. Je suis handicapée depuis l'âge de 7 ans, j'ai 63 ans maintenant, donc je suis une vieille routarde du handicap. Je peux vous dire que le regard change énormément. Grâce à des films, notamment Intouchable. Intouchable a fait un bien monstre, nous a fait un bien monstre. Je veux dire, c'est beaucoup plus efficace que n'importe quel spot publicitaire ou n'importe quel discours de politicien. Quand Intouchable est sorti en salle, je me souviens que 3-4 jours après, je suis allée acheter mon pain dans une boulangerie qui n'est pas accessible parce qu'il y a une très grosse marge. Et là, les gens sont venus vers moi pour me demander si j'avais besoin d'aide. Je veux dire, on m'a adressé la parole. Et ça, c'est fantastique.
D'habitude, on vous regardez plus peut-être avec méfiance ou...
Peut-être pas. Peut-être pas de méfiance, mais on savait pas comment faire.
Oui, c'est ça.
Et en fait, on se côtoie pas assez.
Peur d'être maladroit.
Peur d'être maladroit. que là, avec Intouchable, ils se sont dit, bah oui, elle peut répondre, on peut lui parler, en fait, on prend aucun risque. Et en plus, elle a peut-être besoin d'aide.
Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples factuels quant à l'amélioration de la gestion du handicap dans l'espace public en France ?
Alors, de plus en plus de lieux sont accessibles. Là, je parle d'accessibilité architecturale. Quand les lieux ne sont pas accessibles, on peut trouver des substituts, comme des sonnettes d'appel. Des sonnettes d'appel qui peuvent permettre prévenir aux gens que dire « là, on est là ». Il y a de plus en plus d'intégration d'enfants handicapés dans des classes ordinaires. Quand ce n'est pas possible, il y a des classes spécialisées dans des établissements scolaires ordinaires. Le travail des personnes handicapées est de plus en plus reconnu, et ce qui pose de moins en moins de problèmes. Ce qui peut poser encore du problème actuellement, c'est la prise en charge par l'État est de plus en plus difficile à obtenir. Parce qu'en fait, quand la loi de 2005 est sortie, ça s'appelle la loi de compensation. D'accord. Qui veut dire compensation, on liste les besoins et on met les réponses en face. Ça, c'est la définition même, c'est ce qu'avait voulu Jacques Chirac. Le problème, c'est que tout le monde s'est engouffré dans cette loi. Parce que pour nous, c'était miraculeux. J'avais besoin de 23 heures d'auxiliaire de vie par jour, d'assistant de vie par jour. On m'a donné 23 heures d'assistant de vie par jour, c'est-à-dire pratiquement jour et nuit. Et en fait, mon dossier a été récemment renouvelé. Et là,
par rapport à quoi c'est normal ?
Le renouvellement est normal, c'est tous les 10 ans.
D'accord.
Et en fait, j'ai obtenu 9h45 d'auxiliaire de vie. Donc, dans les premiers temps, j'avais 23 heures sur 24. Maintenant, j'ai 9h45 par 24 heures.
Et est-ce que vous savez comment l'État, l'administration a estimé ça ?
En fait, ils se sont pas rendus compte que c'était un réel bon en avant pour les personnes handicapées. Que c'était vraiment la liberté, on donnait la liberté aux personnes handicapées de dire j'ai besoin de ci, est-ce que vous pouvez m'aider à l'obtenir ? Donc la loi était superbe, seulement c'est une loi qui a coûté beaucoup, qui coûte beaucoup d'argent. Et vous savez que le nerf de la guerre, c'est l'argent, et que les caisses, ben, elles sont pas très loin d'être vides. Donc les personnes handicapées peuvent en pâtir. Et je voudrais juste insister à un point aussi qui est peut-être un peu négatif. Ce qui est difficile dans la vie d'une personne handicapée, c'est le changement de statut. Alors je m'explique. Le changement de statut, c'est de passer d'une prise en charge enfant à une prise en charge adulte. C'est de passer d'une prise en charge incapacité de travail à une prise en charge travailleur handicapé. C'est de passer de travailleur handicapé à retraité. C'est tous ces moments où en fait notre vie bascule sur un autre statut. Alors là, c'est le début des ennuis. Ce sont des périodes qui peuvent durer entre 3 mois et 1 an, où quelquefois les allocations, les aides financières s'arrêtent. Bien sûr, on les récupère après parce que c'est proactif, mais ça peut être des moments très difficiles. En fait, c'est quand on est borderline, on n'est plus tout à fait enfant, on n'est plus tout à fait adulte. La majorité en France, pour un enfant handicapé, contrairement à la majorité des gens, c'est 20 ans. Bon, c'est pas discriminatoire, ça. Voilà. Voilà encore une différence qu'il faudrait gober pour qu'on soit au moins sur un même pied d'égalité devant la majorité.
Quelque chose à rajouter par rapport à ça ?
Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire. Bien sûr que toutes les situations ne sont pas réglées et que les problèmes sont quelquefois paraissent insurmontables pour certaines personnes. Mais je pense que depuis quelques dizaines d'années, le regard qui change, le regard bienveillant des autres, nous ferons tous avancer. Et ce qui fait avancer, c'est de vivre ensemble. Partager un pique-nique chez Monikos aujourd'hui nous fait tous grandir. Parce qu'en fait, on se côtoie, on s'appréhende, on se connaît. Et c'est la méconnaissance qui crée des attitudes ségrégatives ou le rejet de l'autre.
Alors, après tout ce que vous venez de me dire, Catherine, j'ai quand même l'impression que vous êtes assez entourée. Vous avez une famille, vous avez les gens de l'association qui sont autour de vous. Est-ce qu'il y a des personnes en situation de handicap qui sont totalement isolées et qui donc ne peuvent peut-être pas remplir toutes les démarches administratives, etc.
L'une des actions de Vivre Debout est d'être en fait auprès des gens pour remplir des dossiers administratifs, notamment à la Maison du Handicap, la MDPH, qui demande en fait des dossiers très lourds pour les demandes d'aide. Et puis aussi des simples lettres, des lettres à la famille. Il y a des gens qui ne peuvent pas rédiger, écrire. C'est vrai que la solitude est un vrai handicap. Mais la solitude, est-elle vraiment liée au handicap? Vous savez qu'il y a en France de plus en plus de gens qui souffrent de solitude. Et ça, c'est un phénomène, un problème, même, on peut dire, qui touche bien au-delà des personnes handicapées. Et il ne faut pas oublier que personnes handicapées regroupent tout type de handicap. Moi, je suis atteinte d'une polyarthrite chronique évolutive. Je suis malade depuis mon enfance. Mais il y a d'autres personnes qui deviennent handicapées à la suite d'un accident. Donc là, il faut se réhabituer. Et c'est là qu'on peut tout perdre. Son travail, sa santé, son autonomie, sa femme et ses enfants. Parce que tout le monde s'éloigne. Et la solitude prend ses aises. Et c'est un mal récurrent dans le monde du handicap et dans la société actuellement. Vivre debout, essayer de au moins d'aider du point de vue légal, parce qu'il y a beaucoup de lois, il faut tout connaître. Trouver un appartement, aide aux aides techniques, conseils, pérambulation aussi. La pérambulation, c'est des personnes handicapées qui montrent à d'autres personnes handicapées comment devenir autonomes, comment faire avec le type de handicap et aussi compléter les dossiers administratifs.
Alors on va revenir aux activités de Vivre Debout. Quand est-ce que c'est le prochain spectacle? Quand est-ce qu'on pourra vous voir sur scène?
Alors nous avons fait deux représentations du spectacle L'histoire de nos histoires. La première représentation s'est passée à Cabu, à l'espace Albert Cadu de Maurepas. Il y avait 230 personnes, c'était super. La deuxième représentation s'est passée au Scarabée de la Verrière. Très très bien, très bien accueilli. Vraiment une équipe qui gère ce théâtre a fait tomber toutes les barrières. C'était la deuxième représentation. Et normalement, si tout se passe bien, nous devrions être programmés à la Maison de l'Environnement et de la Culture de Manille-et-Amont au mois de novembre. Voilà. Et donc, je convie tous les gens qui nous suivent et qui veulent découvrir une autre façon d'être sur scène, de venir nous voir. Et nous avons une page Facebook, Vivre Debout, et je donne aussi ma page personnelle, où il y a beaucoup d'informations, c'est Catherine Papois, tout simplement.
Merci Catherine.
Et de rien, c'était un véritable plaisir.
Et bien sûr, merci à Monico pour l'organisation de cette fête. Ce reportage, comme toutes les émissions de Marmite FM, est à retrouver sur le site internet de la radio marmitefm.canalblog.com. Et puis, vous y trouverez également tous les descriptifs concernant l'association Vivre Debout. Merci à tous.
C'était Un micro dans la ville sur Marmite FM.